20h, 21h.
Allô l'imam avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Allô l'imam, et oui, vous appelez l'imam Abdelali Mamoun tous les jours pendant le mois du Ramadan à un numéro de téléphone 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue, bon Ramadan, c'est le quatrième jour. Bonsoir, imam Abdelali.
Bonsoir, salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon. Heureux d'être avec toi, même un dimanche. C'est bien.
Surtout un dimanche.
Ah ouais, c'est magnifique.
Ah bah, on va en passer quelques-uns ensemble. Hein,
on n'est pas stressé, rien, tout va bien.
Non, on n'est pas du tout stressé.
En plus, demain encore un jour férié, c'est bien.
Ah oui, non, mais on n'en peut plus là en ce moment, des jours fériés. Bon, Imam Abdelali, je peux vous assurer qu'hier, tout le monde voulait savoir comment et à quoi ressemblaient vos makis.
Bah écoute, c'est toi qui vas me le dire, parce que c'est toi qui en as mangé, Philippe. Donc, un makis californien avocat saumon, c'est-à-dire c'est un makis, c'est-à-dire du riz roulé avec la feuille de l'algue japonaise.
Hein. Ouais.
On met dessus des graines de sésame blanches et noires. Ensuite, on pose le saumon et
l'avocat.
Ensuite, on roule tout ça.
Ouais.
Et après, on coupe le boudin en plusieurs petits morceaux.
D'accord. Voilà. Ce qui veut dire que vous êtes à la fois imam... Et que
et restaurateur japonais.
On pourrait vous embaucher dans un restaurant japonais. C'était délicieux vos makis, ma belle Ali.
C'est toi qui le dis.
Magnifique.
Merci pour
01 53 48 3000. Donc vous le savez, l'imam Abdel Ali répond à vos questions. Soyez gentils, merci. On compte sur vous pour poser une question à la fois parce qu'il y a beaucoup de monde au standard. Comme ça, ça permet de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité et effectivement que chacun puisse avoir une réponse à sa question. D'autant plus que l'imam Abdel Ali Mamoun répond à vos questions hors antenne sur son téléphone portable. On part à Bourges, et je pense que c'est Fouad qui est avec nous, Fouad qui nous appelle de Bourges. Bienvenue Fouad, et bon Ramadan.
Cœur de la France, Bourges. Salam alaikum.
Bon Ramadan.
Alors Fouad,
il y a
quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut aussi que vous enleviez le kit main libre ou le haut-parleur, si vous l'avez, Fouad.
Attendez, oui.
Voilà, comme ça on profite au maximum de votre voix et c'est plus facile de vous entendre.
D'accord.
Allez-y vite, comme ça on gagne du temps. Vas-y, Khoya.
Assalamu alaikum.
Mmh. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
J'appelle, en fait, j'ai une question, parce que, en fait, j'ai un enfant qui a 5 ans maintenant.
Oui.
Mais il
est électrique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas fait le sport à l'époque. Je travaillais pas, j'avais pas les moyens.
Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as les moyens de le faire?
Oui.
Ah ben, vas-y, fais-le, Khoya. Fais-le.
Et je voulais savoir... Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, est-ce que pendant Ramadan, je peux couper les moutons et les donner à quelqu'un? Ou est-ce qu'il faut
non, faire un vide? De surcroît, pendant le Ramadan, la récompense est décuplée quand tu fais une sadaqa. Et là, alhamdoulilah, il y a énormément d'organismes qui préparent pour la rupture. Je ne sais pas si la chorba pour tous...
Chorba pour tous, mais il y a énormément d'organismes qui préparent la soupe pour ceux qui sont les sans-abri, notamment.
Oui, voilà, les associations, les maraudeurs, etc. Qui,
à manger pour tous, également.
Voilà, qui reçoivent, bien sûr, cette viande et qui la découpent en petits morceaux et qui préparent avec des chorbas, des harira et tout ça. Donc, c'est bien. Vas-y, Khoya, en plus, c'est distribué aux pauvres. Donc, vas-y, l'important, c'est de citer le nom de l'enfant au moment d'égorger le mouton. D'accord? Tu dis « Bismillah, anil maouloud ». Et comment il s'appelle, le petit?
Ayman.
Ayman, mashallah. Comment mon fils s'appelle Ayman? Mon grand-fils, moi je m'appelle Abou Ayman, parce que mon grand-garçon s'appelle Ayman. Tiens, je l'embrasse au passage.
C'est combien de moutons pour un garçon?
Alors, de préférence, deux, si on peut, si on peut pas, un au moins. Un au moins, c'est bien. Un, c'est bien. Le prophète, pour le Hassan et le Hussein, il n'en a fait qu'un seul, pour le Hassan et pour le Hussein. Mais il y a un hadith qui dit qu'il est recommandé d'en faire deux pour les garçons. Mais si t'en fais qu'un, ça passe. Tu peux prendre une partie de la viande, tu la manges, et tu peux une autre partie, si tu le veux, la distribuer aux organismes qui vont redistribuer la viande, ou tout simplement, si tu as des voisins que tu connais à côté de chez toi, qui n'ont pas beaucoup de moyens, tu prends chacun un petit gigot, un morceau de viande, et tu distribues aux voisins, c'est bien ça aussi.
Ok, d'accord.
Voilà, tout ça c'est bon. Tout ça, ça passe.
Ok, merci. Barakallahu fik.
Merci Fouad pour votre question. Bon Ramadan.
Ok,
à bientôt. Alors, Zulira est avec nous. Bienvenue, bon Ramadan.
Zulira.
Salam alaikum.
Tu sais, c'est qui Zulira, Philippe?
C'est la dame qui nous appelle.
Non, Zulira, oui. C'est d'abord la femme du gouverneur qui avait convoité le prophète Joseph, Youssef alayhi salam. Et donc, la dame s'appelle Zulira, du nom de cette belle dame qui était une dame qui est devenue pieuse plus tard. Marhaba bikorti Zulira. Tfadali, soualak.
Oui, je vous ai appelé, c'est pour, parce que je fais pas le ramadan, j'ai appelé l'année dernière. Je suis diabétique, et j'ai la tension.
Oui.
Mais c'est-à-dire, je reste pas au lit, je marche, je mange normalement. Normalement, Et je voudrais savoir si je vais faire le ramadan. Oh, je donne juste.
Madame, c'est un diabète de type 1. C'est-à-dire, il est insulinodépendant.
Il est pas fort le diabète.
Madame, est-ce que votre diabète, il exige de prendre l'insuline? Est-ce que vous prenez de l'insuline?
Non.
Non, c'est juste les metformines. Les médicaments metformine et tout ça, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Eh ben, écoutez, c'est un type 2, donc. Il n'est pas déconseillé de jeûner dans ce cas-là, moi, à ma connaissance. Maintenant, je dis bien que c'est au médecin qui aura le dernier mot en la matière. Donc, madame, il faut consulter le médecin et lui demander est-ce que, dans mon état, est-ce que je peux jeûner ou pas.
Ben, j'ai demandé au médecin l'année dernière, mais il m'a dit ne le fais pas. Mais comme c'est en français, je ne sais pas.
Non, madame, il faut pas lui demander. Il faut pas dire qu'il dise simplement je le fais pas, ne le fais pas. Il faut dire pourquoi je le fais pas. Il faut qu'il donne des explications médicales. Il dit voilà, madame, vous risquez de faire de l'hypertension, vous risquez de faire ceci ou cela par rapport à votre âge, par rapport à plein d'autres paramètres que moi je n'ai pas en tant qu'imam. Ouais. Eh bien, je ne peux pas moi vous dire de jeûner alors que le médecin il vous dit de pas jeûner. C'est à l'autorité médicale de prendre la décision. D'accord? Il a galak, mais il a qu'darti tassli bouhad tabib muslim, un médecin qui prend en compte le paramètre de l'islam et de Ramadan. Eh bien, faites-le. Il a عندك شي واحد صاحبك ولا مرا طبيبة ولا حد اللي تعرفيه, quelqu'un que vous connaissez.
C'est le médecin de famille, médecin de l'hôpital.
Non, mais j'ai compris, mais vous pouvez, les médecins, il y en a partout. Vous pouvez juste leur donner un coup de téléphone et demander.
Ah, d'accord.
Voilà.
Et tout à l'heure, j'ai entendu vous parler de la voyance, ça pardonne pas.
Ah oui, vous avez. Oui. Ben,
parce que quand j'étais jeune, mais j'ai pas fait quelque chose de mal. Mais j'aime bien qu'ils me disent l'avenir. Est-ce que c'est pardonnable ou pas?
Alors, ils vous ont raconté des bêtises, ça c'est sûr, parce que personne ne connaît l'avenir. Yartil Kalima. وَمَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ. Personne ne sait ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre dans l'avenir, si ce n'est Allah Azzawajal. Donc déjà c'était des charlatans, peut-être qu'ils vous ont fait du bien parce qu'ils vous réconfortaient dans un état de détresse que vous étiez, dans lequel vous étiez. Mais effectivement, c'est pas une bonne chose de faire ça. Maintenant, ce que je peux vous dire, madame, écoutez bien. Ya Abdi, la ubalagha dhunubuka anan as-sama, thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Oh mon serviteur, je répète, c'est Dieu qui parle. Ya Abdi, oh mon serviteur, ya Amati, oh ma servante. C'est-à-dire le mra ou le raj, le kimakan. Si tes péchés atteignent l'horizon des deux côtés, des quatre points cardinaux, en quantité, et que tu me reviens en demandant pardon, je te pardonne et j'en ai rien à faire. Ou ala ou bali. Et je n'ai rien à faire. Et je te pardonne quand même tout ça, toute cette quantité de péchés. Même qu'en a la voyance, shirk billah, kimakan. Si tu demandes pardon à Allah Azzawajal et que tu n'es pas encore mort, Allah il pardonne. D'accord.
Je demande tous les jours pardon.
Eh ben c'est bien, alhamdoulilah, il vous a pardonné. Alhamdoulilah, madame, istaghfarti rabbaka, fa'alam anna Allah ghafara laki. Allah il vous a pardonné.
Alors, je demande au médecin, qu'est-ce qu'il va me dire le médecin
si je vous ai dit, essayez d'avoir consulté un médecin qui prend en compte les paramètres de l'islam, il est مثلا musulman par exemple, et vous saqsiez, vous le voilà, j'ai un diabète type 2. Je prends de médicaments contre la tension, contre le diabète, metformine, etc. Vous prenez 800 mg ou là, 1000 mg?
C'est 1000 mg.
Eh, mashallah.
Et le soir, je prends le matin 4 comprimés pour la tension. Et le soir.
Madame, écoutez, moi je suis pas médecin. Je vous dis, je vous le répète. Seul le médecin est capable de répondre à cette question si vous devez jeûner ou pas. Mais un médecin qui connaît, il dit voilà, moi, et pas qu'il dit juste par précaution, qui est vraiment, il dit il y a des risques avérés, des risques qui sont concrets.
Oui, là j'ai des risques moi.
Voilà. Alors on a une diabétologue qui écoute et qu'on va prendre en ligne comme ça sera bon pour tout le monde. On la prendra tout à l'heure après la publicité. Comme ça, Zulira, vous aurez une réponse à votre question. D'accord.
D'accord, merci.
Attendez, vous pouvez me donner le nom du médicament de la tension?
va lui donner ramène.
Ah ben non, on n'a pas le temps là, on n'a pas le temps. C'est pas, on vous reprendra tout à l'heure. On vous reprendra tout à l'heure.
Bon, en tout cas, restez à l'écoute. Merci beaucoup, Zulira. Zora est à Paris. Bienvenue, Zora. Bon Ramadan.
Allô.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Salam alaikum. Voilà, je voulais poser une question concernant ma fille qui était enceinte l'année dernière. Elle n'a pas pu faire le ramadan. Elle a payé 5 euros par jour. Enfin, elle a donné ça. Et cette année non plus, elle est allaite. Et en plus, dès qu'elle essaye de jeûner, elle a très soif. Mmh. Alors, elle voudrait savoir...
Donc là, elle allait, c'est-à-dire,
Elle allait son bébé, oui.
Son bébé, elle n'est pas concernée par le jeûne.
Oui, elle fait comme l'année dernière.
Oui, voilà, c'est ça, elle ne jeûne pas le ramadan.
D'accord, juste payer la journée, enfin 5 euros la journée.
Voilà, c'est ça.
D'accord, je vous remercie beaucoup.
Allah
Oui, inchallah.
Salam alaikum. Wa alaikum salam.
Merci Zora. Nassima, vous êtes avec nous, 01 53 48 3000. Nassima, bienvenue.
Oui, salam alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
En fait, j'ai une question. C'est que je suis seule à élever mon fils religieusement, façon de parler, parce que mon mari ne s'y connaît pas vraiment à grand-chose.
Oui.
Et c'est un Français converti, mais il ne connaît pas vraiment grand-chose. Donc, mon fils, il va voyager. Enfin, c'est pas vraiment un voyage, c'est il part une excuse avec.
Il a quel âge?
Il a 13 ans et demi.
16 ans et demi?
13.
13 ans et demi?
Oui.
Il n'est pas encore pubère? Il n'a pas encore la puberté?
Non, je crois pas, mais il commence à avoir des moustaches.
Non, c'est pas les moustaches qui déterminent la puberté. La puberté, c'est quand on est capable de procréer. Quand on a. Quand on est capable, comme un homme, de faire des enfants. Allô, vous m'écoutez?
Oui, oui, je vous écoute.
À quelqu'un qui est concerné par les rites de l'islam, la prière, le ramadan, tout ça, c'est quelqu'un qui peut faire des enfants. Vous comprenez? C'est pas quelqu'un qui a des poils.
D'accord. Voilà. Parce que là, il essaie de faire le ramadan en entier, mais comme mardi, il part en excursion, il me dit, je peux pas tenir la journée complète.
Non, vous, il fait pas le ramadan. Il n'est pas concerné par le jeûne du ramadan. Goula matsoum choukhlas, wassalamu alaikum, afiha walou. Hada l'walad ghir balag idan ghir mukallaf. Femtiya le kalam? Il n'est pas concerné, il n'est pas responsable des préceptes de l'islam, vu qu'il est encore non pubère. Il n'est pas encore pubère. Al-taklif yakunu bil-boulour. Al-boulour wa huwa al-qudra ala al-injab. Wa huwa khuruj al-mani min al-rajul. Khuruj al-mani, idha kharaj al-mani min al-rajul, yiqdir yinakah, mathala yikun andaha zawja, yiqdir yinjib al-walad, hina idhin yusbah al-walad balag, ma'ni bil... Fahuwa ma'ni hina idhin bi... بالأحكام وبالأوامر الله عز وجل.
D'accord.
واضح الكلام.
Donc il est pas obligé de jeûner ce jour-là. Même les
autres. Il jeûne pas, même s'il y a des jours il a pas envie de jeûner, vous l'obligez pas à jeûner. Il jeûne un petit peu, il se repose un petit peu. Hakda. Il faut faire attention à sa santé.
D'accord. Merci beaucoup. Balakallahu fikoum.
Merci Nassima.
Merci beaucoup.
Fadela, et on va à Toulouse, Imam Abdelali. Fadela, bienvenue, bon ramadan.
Oui, merci beaucoup, salam alaikum, l'imam.
Wa alaikum salam.
Bonjour Philippe. Je voulais vous poser une question parce que, en fait, ça fait 4 jours que je suis sortie de l'hôpital. Je me suis fait opérer de la jambe. Mon médecin, enfin mon chirurgien m'a déconseillé de faire le ramadan parce que j'avais de la tension qui tombait. Qui était vraiment faible. Et du coup, j'ai des médicaments à prendre tous les jours. J'ai ma famille de mon
côté. C'est quoi les médicaments? Combien de temps? Combien de fois par jour?
3 fois par jour.
Mm-hmm.
C'est des fortes doses parce que je me suis fait opérer vraiment quelque chose d'assez grave.
D'accord, mais est-ce que vous lui avez demandé que si vous jeûnez le ramadan et que vous prenez les médicaments le soir et le matin, est-ce que ça peut compenser?
Oui. Il m'a dit non, que j'étais obligée de le boire le matin, midi et soir.
Ouais, non, il a donné des explications ou c'est juste un nom
Il m'a dit parce que ma tension déjà elle diminue et ça engendre déjà je commence à avoir de la fièvre si je bois pas les médicaments.
Madame, écoutez, parce ce que je peux vous dire, c'est consultez quand même un autre médecin. Ne prenez pas l'avis que sur une personne. une opération au niveau de la jambe, est-ce que ça doit m'empêcher de jeûner? Je sais pas. Moi, ça me paraît, je reste perplexe par rapport à ça. Je ne suis pas catégorique, bien sûr. Je n'affirme pas avec manière catégorique que vous ne devez pas jeûner ou que vous devez jeûner. Mais consultez un autre, notamment c'est quelqu'un qui prend en compte les valeurs de l'islam et qui peut vous dire, madame, non, vous risquez rien si vous prenez les médicaments le soir, ça peut aller. J'en sais rien. Moi, je suis pas compétent pour vous le dire ça. Mais je pense que ça mérite d'être, de vérifier.
D'accord. Parce que ma famille, elle est en train de me dire oui, il faut que tu jeûnes, t'es obligé et tout. Donc,
je peux vous dire, c'est de consulter un autre médecin qui est de confession musulmane. Expliquez-lui, voilà ce que vous prenez comme médicament. Voilà ce que vous risquez. Mmh. S'il vous dit jeûnez pas, ben vous jeûnez pas. D'accord. Et par contre, il ne faut pas payer la fidia. Hein. Il faut attendre de guérir. Et quand vous serez guéri, vous ferez le jeûne. Vous jeûnerez les jours que vous n'avez pas jeûné. Même en hiver, pourquoi pas. Même vous pouvez attendre l'hiver pour le faire. Et pas de manière successive, pas forcément successivement. Vous n'êtes pas obligé de faire le rattrapage jour après jour, successivement, sans s'arrêter. Vous pouvez faire un jour par-ci, un jour par-là, un lundi, un jeudi, etc. Et voilà, ainsi de suite.
Merci, Fadela. D'accord. Le monde est bizarre, hein. On rencontre toujours deux mondes. Il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner parce qu'ils ont des graves contre-indications médicales. Alors, eux, ils veulent jeûner.
Ils veulent jeûner.
Et puis, il y a ceux qui ont un chouïa de contre-indications et qui appellent l'imam pour qu'ils disent non, tu jeûnes
pas. Alors, je sais pas si c'est quand même une malade imaginaire. Non, elle a quand même une jambe.
Non, mais c'est vrai qu'il y a deux mondes qui se croient. Il y a des gens qui se croient.
C'est pas rien,
une jambe.
Allah échappe, en tout cas. Je lui souhaite un bon rétablissement à notre sœur. Allah échafiha, Inch'Allah. On verra, Inch'Allah. Écoutez, consultez, puis verra.
Pourquoi un docteur musulman, ça change?
Non, c'est parce que le musulman va prendre
un docteur,
en compte...
Un docteur, c'est un docteur.
Un docteur, mais quand même qui va... Moi, je ne suis pas contre qu'on consulte un médecin non musulman. Mais j'aime bien qu'il me donne des explications et qu'il me donne des risques avérés dans le cas de jeûne.
Il faudra si c'est indiqué, contre-indiqué ou très contre-indiqué, vous voyez.
Voilà, est-ce que je peux quand même le faire? Est-ce que je peux quand même essayer?
Voilà.
Maintenant, moi, je dis, si elle ne peut pas jeûner... Et son médecin lui dit non, vous risquez, vous mettez votre santé en péril, eh bien là, elle n'a pas le droit de jeûner, bien sûr.
Bon, Imam Abdelali, on a promis aux auditeurs, on va rentrer en contact avec le docteur Shafika Kitter, qui est là, hein, donc qui est diabétologue, très connu, endocrinologue. On va faire le point sur ces histoires de diabète et sur les nouvelles recommandations qui sont données, parce que c'est vrai que ça a un peu changé. Les recommandations pour ce qui concerne les diabétiques et le ramadan, ça a un petit peu changé. Donc on fait le point avec elle dans un instant.
Allô l'imam, reviens dans un instant. Beur FM, 20h, 21h. Allô l'imam, avec Philippe Robichon.
Voilà, à 21h35, si vous habitez Paris, la région parisienne, pour la rupture du jeûne, on rentre en contact avec le docteur Shafika Kitter dans un instant. Vous posez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun, un numéro de téléphone que vous composez jusqu'à 21h, 01 53 48 3000. Et nous avons Donia qui est avec nous. Donia, bienvenue.
Allô ?
Oui, Donia, bienvenue.
Salam alaykoum, merci. J'ai une petite question pour l'imam. En fait, je suis amenée à partir en voyage à l'étranger la semaine prochaine. Et j'aurais voulu savoir, est-ce que je devais jeûner ou pas le jour du voyage et pendant le voyage?
Alors, vous restez combien de temps là-bas là,
vous arrivez? Alors, je reste du mardi au dimanche, donc ça fait 5 jours, 6 jours à peu près.
5 jours. C'est où?
C'est en Suède.
En Suède, oula.
Et c'est dans le cadre de mon travail, du coup.
Ils jeûnent pas beaucoup en Suède. Hein.
Non, c'est surtout, ils jeûnent beaucoup, puisque c'est très long la journée là-bas.
Enfin, non, quand je dis, oui, c'est très long, oui, mais.
C'est très long. Alors, écoutez, moi, je vais vous donner l'avis religieux qui, bien sûr, est majoritaire, sur le fait qu'il est, bien sûr, vous êtes invité à, vous avez la dérogation de ne pas jeûner pendant tout votre voyage, y compris quand vous êtes là-bas.
Très bien. Donc, pendant le voyage, et y compris quand je suis là-bas, du coup, du mardi à dimanche.
D'accord, voilà. Sachant que l'école malikite, elle considère qu'au-delà de 4 jours sur place, vous devez, au-delà de 3 jours, c'est-à-dire le 4e jour, vous êtes censé reprendre la prière, etc. Mais les autres écoles vont plus loin. Ils parlent de 15 jours, 18 jours, etc. D'accord. Et plus même. Donc, moi, je vais prendre cet avis pour vous, surtout parce que la Suède, d'accord, c'est un pays où le ramadan n'est pas facile à faire là-bas. Surtout pour d'accord, quelqu'un qui a du travail et qui est très active. Donc, vous ne jeûnez pas pendant tout votre voyage. Et quand vous reviendrez, et vous continuerez à reprendre votre jeûne. Et après le ramadan, vous rattraperez les jours non jeûnés. Il n'y a aucun souci.
Ok. Bon, barakallahu fik pour la réponse.
Merci beaucoup. Au revoir. Salam alaikum.
Bonsoir, Donia. Merci. 01 53 48 3000. C'est Fatima qui est avec nous. Fatima, vous êtes la bienvenue. Bon ramadan. Alors, Fatima.
Bonsoir Philippe, bonsoir Imam des Lumières.
Imam des Lumières.
Imam de l'Islam des Lumières.
Voilà. Mashallah, l'islam tout court, on essaie de... De toute façon, l'islam, il est lumière. Parce que pour moi, ce qui n'est pas lumière dans l'islam n'est pas l'islam. Donc c'est ce qu'on appelle un pléonasme, le fait de dire que l'islam des Lumières, ça voudrait dire qu'il existe un islam de l'obscurantisme ou de l'obscurité. Et moi, pour moi, à ce moment-là, c'est plus l'islam.
Non, c'est pas dans ce sens-là.
Oui, j'ai compris.
Imam. Dans le sens où les explications, mais avec beaucoup de
clarté.
Comment dire?
De clarté, parce que vous parlez de lumière, donc la clarté.
Voilà, et donc on a pas de doute là-dessus.
C'est gentil, ma sœur. Barakallahu fik. Allez-y, posez votre question. Merci pour le compliment.
Moi, je voulais vous poser juste une petite question. Hier, j'étais dans le bus.
Ah, et ça commence bien.
Il y avait deux dames qui étaient derrière. Le bus, c'est très sale. Moi, je vois des gens qui montent. Il y a des fois des pauvres SDF qui montent, qui sont pleins d'urine, pleins de soucis.
D'accord, allez-y, posez la question.
Et donc, il y avait deux dames qui étaient à l'arrière, à côté de moi. Et il était 18h. C'était du côté de Boulogne.
Hein, quoi?
À côté de Boulogne.
À côté de Boulogne. Mais madame, rentrez pas trop dans les détails. Dites-nous exactement. Non,
pardon. Dans le bus, on était dans le bus. Et c'était un trajet peut-être d'une demi-heure, comme ça, 20 minutes. Et j'ai vu deux dames qui étaient en train de faire leur prière, assises. Et pas seulement comme ça, comme on l'a fait quand on est malade ou en train de se baisser, de se lever. Et ça donnait un...
Attendez, elles étaient assises sur la chaise ou est-ce qu'elles étaient debout avec les inclinaisons?
Non, elles étaient assises, mais elles faisaient et tout. Et donc, bon, moi, j'entendais pas trop à côté.
Alors, il était quelle heure quand elle priait?
Il était 6h, il était 18h, c'était l'heure d'Al-Asr. Et donc, moi, je me dis, est-ce que ça peut pas attendre ou est-ce que c'est valable de faire ça avec les chaussures, avec la gel là-bas qui traîne ou ils avaient en pantalon et tout. Mais est-ce que ou si c'est pas une provocation? Moi, je me dis, je vous dis franchement, faire sa prière dans le bus comme ça autour de gens et tout, moi, je trouve que c'est un peu déplacé. Donc, est-ce que c'est valable?
Si cette prière était une prière surérogatoire, c'est-à-dire une prière qui n'est pas obligatoire, cette prière est valable. Puisque si on est en état d'ablution et qu'on prie une prière assise surérogatoire, on a le droit, le prophète le faisait sur son chameau. Et ce chameau, je ne suis pas sûr que c'est plus propre que la chaise du bus. Hein, et même le sol du bus n'est pas forcément plus propre que le dos d'un chameau.
Oh, je ne suis pas sûr. Là,
Allah, parle de l'époque du prophète, les chameaux, ils n'étaient pas entretenus comme aujourd'hui.
Le bus, c'est particulièrement cracra. Hein.
Oui, mais cracra de quoi? Est-ce que c'est des impuretés ou c'est de la saleté? D'abord, est-ce que...
Il y a des microbes, des bactéries.
Alors, attendez. La saleté, comme tu dis, les microbes, n'annule pas et n'empêche pas de prier. Ce qui annule et qui empêche de prier, ce sont les impuretés. Ce qu'on appelle en arabe la najasa. L'urine, l'alcool, l'excrément.
Il y en a plein dans le bus.
Oui, mais là où est-ce qu'elles étaient assises? Est-ce qu'il y en avait? Je pense pas. Elles n'allaient pas être avec les pieds qui. Attendez, mais madame, j'ai bien compris. Laissez-moi quand même répondre à votre question. Donc, la prière surérogatoire, si elles ont fait des prières surérogatoires, leur prière est valable. Mais vous me dites que c'était l'heure de l'Asr, donc il est probable que ça soit la prière de l'Asr qu'elles étaient en train de prier. Eh bien, moi, je leur dis, cette prière-là n'est pas valable. Elle est caduque. Elle est fausse. Il faut qu'ils la refassent. On ne peut pas prier assis. Les prières obligatoires. Quand le prophète sallam venait, la prière obligatoire, il arrêtait le chameau, il descendait du chameau ou la mule ou la monture sur laquelle il était, et il accomplissait ses prières avec les postures. Debout, incliné, prosterné, comme on le fait quand on est sur un tapis. Voilà. Donc, cette personne-là est invitée à attendre de rentrer chez elle pour prier. Maintenant, quand on est assis, ma sœur, moi, je vois pas d'inconvénient. Est-ce qu'une personne, si elle fait ça discrètement, à s'incliner légèrement pour le rukou et incliner un petit peu plus pour le sujoud, pour pratiquer des prières surérogatoires, moi, je vois pas d'inconvénient. Je gêne qui? Je ne dérange personne. Il y a bien des prêtres, il y a même des chrétiens qui ont un chapelet, qui sont en prière assis sur leur chaise. À partir du moment où on dérange personne, il faut quand même pas abuser... on est quand même dans un pays de droit. À partir du moment où je ne constitue pas un trouble à l'ordre public, je suis assis tranquillement, paisiblement, j'incline ma tête devant moi, je gêne qui? Je dérange personne. Si j'ai envie de prier des prières surérogatoires, il n'y a aucun problème. Maintenant, je répète à ces personnes, si c'était une prière obligatoire, elle n'est pas valable. Seules les prières surérogatoires peuvent être accomplies assises. Les prières obligatoires peuvent être accomplies assises que si on ne peut pas sortir de moyens de transport, c'est-à-dire qu'un train qui va faire plusieurs heures de trajet, ou un avion ou un bus qui fait des longues distances. Mais là, en l'occurrence, cette dame-là, si vous me dites qu'elle est dans un bus de ville, la RATP, ça veut dire qu'elle va bientôt arriver à destination et qu'elle va rentrer chez elle et pouvoir prier. Elle va prier donc dans les postures prévues, comme le prévoit la prière qui se fait sur un tapis normalement. Est-ce que j'ai bien répondu à vos questions ?
Voilà, Fatima, la réponse de l'imam. Merci pour votre question. Le docteur Shafika Kitter est avec nous. Bonjour docteur, bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour Philippe, bonjour monsieur l'imam.
Salam alaykoum Urti Shafika, docteur Shafika, marhababik.
Voilà, qui est diabétologue, endocrinologue à l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis.
Absolument, à Saint-Denis.
Bon, vous êtes à Paris et je vous ai moins souvent que votre sœur qui est fil khabar Urti Nawal.
Ma belle sœur.
Ah, votre belle sœur Nawal, voilà, c'est ça, la belle sœur Nawal.
Absolument.
Nawal, qui est, machallah, elle m'a interviewé deux fois, là, ce mois-ci.
Bah, écoutez, vous êtes une célébrité.
Oui, elle est tellement connue, Imam Abdelali, qu'elle s'y est reprise à deux fois. Hein.
Oui, à deux fois.
Ouais, franchement. Bah,
j'ai vu les articles, ils étaient bien, c'était sympa.
Vous savez qu'on est là pour parler de diabète, Imam Abdelali.
Oui, allons-y, non, mais parce que quand j'entends Shafika.
Je voulais souhaiter un bon ramadan à tout le monde, à tous les musulmans. Et puis, je voulais intervenir déjà pour répondre à la dame qui a posé la question sur le diabète. Et elle est diabétique de type 2.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Elle a aussi une hypertension. Elle prend plusieurs médicaments.
Une hypertension artérielle, absolument. Mmh. Donc, c'est vrai que je suis déjà venue plusieurs fois. Et j'ai déjà parlé des recommandations, en fait... sur le diabète et le ramadan, ces recommandations qui existent depuis des années déjà, et qu'on essaie de faire connaître de plus en plus chaque année par les médecins, par les professionnels de santé et par les diabétiques eux-mêmes. Donc, moi, ce qui m'a interpellée, c'est ce qu'a dit M. l'imam, de conseiller à la patiente d'aller voir un médecin musulman, ça m'a un petit peu...
Non, ou bien je lui ai dit qu'elle prend quelqu'un qui prend en compte les paramètres sacrés et spirituels du ramadan. Parce que absolument. Parfois des médecins, ils sont simplement dans la prévention. Ils vont vous dire non, ne jeûnez pas par prévention. Ils ne prennent pas du tout en compte la dimension spirituelle et l'importance que nous donnons, nous, à la pratique du jeûne du ramadan. Et donc voilà, mais donc parfois
certains médecins, certainement, et parmi eux, il y a même des médecins musulmans, hein, parce qu'il y a des musulmans qui vont dire soit vous faites pas, sans argumenter. Alors qu'il y a des recommandations. Il y a eu même nous, il y a eu des enquêtes faites sur avec des médecins et des patients qui ont montré qu'il y avait même parmi les médecins. Des médecins musulmans qui ne connaissaient pas les recommandations.
Énormément, Shafika, parce que moi, pour avoir fait plusieurs émissions avec vous sur le sujet, ces recommandations sont très méconnues et finalement, les diabétiques, on leur dit « je n'ai pas ».
Tout de suite, ouais, c'est systématique par précaution, ils ne veulent pas assumer. S'il se passe un problème, ils ne veulent pas assumer.
Je peux vous dire que maintenant, les recommandations sont un peu plus connues qu'il y a quelques années. Les recommandations déjà étaient connues dans les pays anglo-saxons, mais elles n'étaient pas encore arrivées en Europe. Mais depuis deux ans, elles sont arrivées, les médecins s'y intéressent, les personnels s'y intéressent. Il y a plusieurs hôpitaux, plusieurs villes en France qui s'intéressent et qui organise des réunions avec les diabétiques musulmans, enfin des musulmans qui sont diabétiques.
Alors, Shafika, on aimerait les connaître. En gros, on va voir entre les types 1 et type 2, quelles sont les recommandations, s'il vous plaît.
En gros, ceux qui pourraient jeûner sans inquiétude, ce sont les diabétiques de type 2, c'est-à-dire qui ont des comprimés, mais pas n'importe quel comprimé. Par exemple, la metformine. Oui, pourquoi pas, à condition, et dans tous les cas, à condition que le diabète soit bien équilibré. Parce qu'un diabétique qui perd du poids, qui a son hémoglobine glycée, c'est-à-dire c'est une prise de sang qui montre comment est l'équilibre du diabète, qui est très élevé, ou bien un patient qui a des complications du diabète, par exemple, il est en train d'avoir des séances de laser au niveau des yeux, ou bien il vient d'avoir un stent au niveau des coronaires, c'est-à-dire au niveau du cœur, ou bien il a une insuffisance rénale, c'est-à-dire une atteinte des reins, ces patients-là ne peuvent pas jeûner, même s'ils ont un diabète de type 2.
D'accord.
Il y a l'équilibre du diabète, il y a aussi les complications du diabète.
Puisque voilà. Le diabète, donc, c'est ce qui engendre effectivement ces maladies qui viennent se greffer au diabète et qui sont provoquées par le diabète lui-même.
Absolument, absolument. Mmh. Donc,
problème de yeux, problème de reins, etc.
Absolument. Donc, il ne faut, faut pas réduire les conseils juste au type de diabète, mais aussi les complications, les autres maladies associées. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y avait une hypertension artérielle. Si l'hypertension artérielle, la patiente doit prendre 3 comprimés par jour, le matin, le midi et le soir, elle ne peut pas sauter la prise du midi. Il faut peut-être qu'elle s'enchaîne auprès de son médecin, effectivement, un cardiologue ou son médecin, si elle peut sauter la prise, si elle peut la mettre plutôt le soir ou 2 comprimés le matin, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, il lui est impossible de jeûner.
D'accord.
Voilà.
Mais donc, pour l'insulinodépendance, c'est-à-dire le diabète de type 1, qu'est-ce qu'il en est ?
Alors, le diabète de type 1, il est déconseillé de jeûner. Mais moi, j'assiste et je vois pas mal de patients diabétiques de type 1 qui jeûnent, mais qui sont conscients des complications ou des risques qu'ils encourent. C'est une réalité. Donc, quand ils voient, quand ils sont en hypoglycémie, ils interrompent leur jeûne. Sachant qu'ils peuvent ne pas jeûner, il y en a certains qui courent ce risque, mais connaissant ce risque.
Mais alors, madame, au lieu de les déconseiller, pourquoi ne pas tout simplement leur interdire d'être plus catégorique, d'être plus dur avec eux pour leur intérêt, dans leur intérêt ?
On a déjà eu cette discussion, vous et moi. C'est-à-dire que moi, en tant que médecin, je vais leur dire que c'est... Je ne peux pas leur dire que c'est interdit. Je vais leur dire que c'est très dangereux pour leur santé.
Oui, mais ce qu'on appelle interdit ou très dangereux, c'est pareil. C'est la même chose. C'est la même...
Je ne peux pas les forcer.
Bien sûr, vous ne pouvez pas les forcer. De toute façon, même quand ils vont sortir de votre cabinet, ils feront ce qu'ils veulent. Mais vous pouvez très bien leur interdire. C'est-à-dire leur dire, écoutez, d'un point de vue religieux... Vous n'avez pas le droit de vous mettre en situation périlleuse, vous mettez votre vie en péril, et à partir de là, votre santé en péril, vous commettez un péché. C'est ça le... c'est une amana, c'est un dépôt d'Allah Azzawajal, on doit la préserver au mieux.
Vous pouvez tenir ce discours, M. Abdelali, moi je suis médecin, moi je ne peux que leur parler des risques, mais je ne peux pas leur dire que sur le plan religieux, moi je n'interviens pas en tant que religieux dans ce sens-là, dans ce cas-là,
vous
voyez.
Mais vous avez le droit de transmettre la parole de l'imam, moi aussi je transmets la parole du médecin, c'est pas un problème, hein. on peut jouer le rôle d'intermédiaire, l'un et l'autre.
Attendez, c'est difficile, vous parlez à un médecin. Mais moi, je voudrais que ce message que je transmets en tant que médecin, que tous les médecins l'écoutent, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Vous voyez ce que je veux dire ?
D'accord.
Voilà. Donc, un médecin, qu'il soit musulman ou pas, moi, je pense qu'il doit parler en tant que médecin déjà. Voilà. Donc, voilà, en gros, en limitant, voilà, il y a quatre parties, en fait, ou quatre catégories. Ceux qui peuvent jeûner, comme je vous disais, c'est surtout ceux qui sont metformine, sous glucor, et bah, les diabétiques vont se reconnaître. Mais ceux qui sont, par exemple, sous Daonil, Diamicron, peuvent jeûner à condition de ne pas faire d'hypoglycémie. S'ils font des hypoglycémies, ils arrêtent le jeûne. Après, il y a dans l'autre catégorie, la plus à risque, je vous en ai déjà parlé, c'est ceux qui ont des complications, par exemple, ou ceux qui ont de l'insuline.
Shafika, coupez la radio qui est à côté de vous, peut-être. Okay, comme ça, on vous entend.
On entend.
Voilà,
c'est là. J'ai pas fait attention. Ouais, voilà. Excusez-moi.
Merci.
Donc, ceux qui sont, qui risquent la dialyse, voilà, qui ont un problème cardiaque, rénal, ceux-là, c'est évident, ils peuvent pas jeûner, même s'il y en a quelques-uns qui voudraient s'y risquer. Après, il y a ceux qui sont dans les deux catégories intermédiaires, par exemple ceux qui font des hypoglycémies et qui habitent seuls.
Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont personne pour les assister et les secourir en cas de besoin. Puisque un hypoglycémie, quand il fait une crise, il faut tout de suite lui donner du sucre. Et comme lui n'est pas en état de le faire, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de lui pour le faire. C'est bien ça.
Voilà. Alors, il y a des diabétiques qui perçoivent encore ils ont la perception des hypoglycémies, donc ils peuvent se resucrer. Mais d'autres qui ne l'ont plus, cette perception. Donc, et petit à petit, ils font l'hypoglycémie qui s'aggrave et ils tombent dans le coma. C'est ce qu'on appelle le coma hypoglycémique.
Là, ils sont et ils en meurent. Ils en meurent, bien sûr, d'ailleurs. S'il n'y a personne qui vient en leur secours, ils meurent.
Ça arrive. Pas tout le temps, mais ça arrive. Surtout s'il n'y a pas de secours qui arrive, bien entendu.
Shafika, vous voulez bien rester avec nous ? Je vous retiens un instant, si vous voulez bien, parce que c'est un sujet trop important. L'épidémie de diabète est vraiment trop, trop présente dans la communauté pour pas qu'on aille au bout des recommandations. Est-ce que je vous garde un instant ?
On essaye parce que je suis dans un endroit. Je vais juste très rapidement. Je suis pas dans. Bon. Mais bon, je reste avec vous.
Voilà, restez avec nous parce qu'on a une courte page de publicité. À tout de suite.
Allô, l'imam revient dans un instant. Beur FM, 20h, 21h. Allô, l'imam avec Philippe Robichon.
Voilà, à 21h35, si vous habitez Paris, la région parisienne, pour la rupture du jeûne, on rentre en contact avec le docteur Shafika Kiter dans un instant. Vous posez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun, un numéro de téléphone que vous composez jusqu'à 21h, 01 53 48 3000. Et nous avons Donia qui est avec nous. Donia, bienvenue.
Allô ?
Oui, Donia, bienvenue.
Salam alaikum, merci. J'ai une petite question pour l'imam. En fait, je suis amenée à partir en voyage à l'étranger la semaine prochaine. Et j'aurais voulu savoir, est-ce que je devais jeûner ou pas le jour du voyage et pendant le voyage ?
Alors, vous restez combien de temps là-bas, là où vous
Alors,
arrivez ?
Alors, je reste du mardi au dimanche, donc ça fait 5 jours, 6 jours à peu près.
5 jours. C'est où ?
C'est en Suède.
En Suède, oula.
Et c'est dans le cadre de mon travail, du coup.
Ils jeûnent pas beaucoup en Suède. Hein.
Non, c'est surtout, ils jeûnent beaucoup, parce que c'est très long la journée là-bas.
Enfin, non, quand je dis, oui, c'est très long, oui, mais.
C'est très long, c'est très long. Alors, écoutez, moi, je vais vous donner l'avis religieux qui, bien sûr, est majoritaire, sur le fait qu'il est, bien sûr, vous êtes invité à, vous avez la dérogation de ne pas jeûner pendant tout votre voyage, tout le y compris quand vous êtes là-bas.
Très bien. Donc, pendant le voyage, et y compris quand je suis là-bas, du coup, du mardi
D'accord,
à dimanche,
voilà. Sachant que l'école malikite, elle considère qu'au-delà de 4 jours sur place, vous devez, au-delà de 3 jours, c'est-à-dire le 4e jour, vous êtes censé reprendre la prière, etc. Mais les autres écoles vont plus loin. Ils parlent de 15 jours, 18 jours, etc. D'accord. Et plus même. Donc, moi, je vais prendre cet avis pour vous, surtout parce que la Suède, d'accord, c'est un pays où le ramadan n'est pas facile à faire là-bas. Surtout pour d'accord, quelqu'un qui a du travail et qui est très active. Donc, vous ne jeûnez pas pendant tout votre voyage. Et quand vous reviendrez, et vous continuerez, reprendrez votre jeûne. Et après le ramadan, vous rattraperez les jours non jeûnés. Il n'y a aucun
bien,
souci.
Donc, ok. Bon, barakallahu fik pour la réponse.
Inch'Allah.
Merci beaucoup.
Bon. Au revoir. Salam alaikum.
Bonsoir, Donia. Merci. 01 53 48 3000. C'est Fatima qui est avec nous. Fatima, vous êtes la bienvenue. Bon ramadan. Alors, Fatima.
Bonsoir Philippe, bonsoir Imam des Lumières.
Imam des Lumières.
Imam de l'Islam des Lumières. Voilà.
Mashallah, l'islam tout court, on essaie de. De toute façon, l'islam, il est lumière. Parce qu'il y aura. Pour moi, ce qui n'est pas lumière dans l'islam n'est pas l'islam. Donc, c'est ce qu'on appelle un pléonasme, le fait de dire que l'islam des Lumières, ça voudrait dire qu'il existe un islam de l'obscurantisme ou de l'obscurité. Moi, pour moi, à ce moment-là, c'est plus l'islam.
Non, c'est pas dans ce sens-là.
Ouais, j'ai compris.
Imam. Dans le sens où les explications, mais avec beaucoup de
clarté.
Comment dire?
De clarté. Parce que vous parlez de lumière, donc la clarté.
Voilà. Et donc, on a pas de doute là-dessus.
C'est gentil, ma sœur. Barakallahu fik. Allez-y, posez votre question. Merci pour le compliment.
Moi, je voulais vous poser juste une petite question. Hier, j'étais dans le bus.
Ah. Et ça commence bien.
Il y avait deux dames qui étaient derrière. Le bus, c'est très sale. Moi, je vois des gens qui montent. Il y a des fois des pauvres SDF qui montent, qui sont pleins d'urine, pleins de soucis.
D'accord, allez-y, posez la question.
Et donc, il y avait deux dames qui étaient à l'arrière, à côté de moi. Et il était 18h. C'était du côté de Boulogne.
Hein, quoi?
À côté de Boulogne.
À côté de Boulogne. Mais madame, rentrez pas trop dans les détails. Dites-nous exactement.
Non, pardon. Dans le bus, on était dans le bus et c'était un trajet peut-être d'une demi-heure, comme ça, 20 minutes. Et j'ai vu deux dames qui étaient en train de faire leur prière, assises. Et pas seulement comme ça, comme on l'a fait quand on est malade ou en train de se baisser, de se lever. Et ça donnait un...
Attendez, elles étaient assises sur la chaise ou est-ce qu'elles étaient debout avec les inclinaisons?
Non, elles étaient assises, mais elles faisaient... Et tout. Et donc, bon, moi, j'entendais pas trop à côté.
Alors, il était quelle heure quand elle priait?
Il était 6 heures. Il était 18 heures. C'était l'heure d'Al-Asr. Et donc, moi, je me dis, est-ce que c'est, ça peut pas attendre ou est-ce que c'est valable de faire ça avec les chaussures, avec la gel là-bas qui traîne ou ils avaient en pantalon et tout. Mais est-ce que c'est, ou si c'est pas une provocation? Moi, je me dis, je vous dis franchement, faire sa prière dans le bus comme ça autour de gens et tout, moi, je trouve que c'est un peu déplacé. Donc, est-ce que c'est valable?
Si cette prière était une prière surérogatoire, c'est-à-dire une prière qui n'est pas obligatoire, cette prière est valable. Puisque si on est en état d'ablution et qu'on prie une prière assise surérogatoire, on a le droit, le prophète le faisait sur son chameau. Et le chameau, je ne suis pas sûr que c'est plus propre que la chaise du bus. Hein. Et même le sol du bus n'est pas forcément plus propre que le dos d'un chameau.
Oh, je ne suis pas sûr. Là,
bah, Allah, allez, moi, je parle de l'époque du prophète, les chameaux, ils n'étaient pas entretenus comme aujourd'hui.
Le bus, c'est particulièrement cracra. Hein.
Oui, mais cracra de quoi? Est-ce que c'est des impuretés ou c'est de la saleté? D'abord, est-ce que...
Il y a des microbes, des bactéries.
Alors, attendez. La saleté, comme tu dis, les microbes, n'annulent pas et n'empêchent pas de prier. Mmh. Ce qui annule et qui empêche de prier, ce sont les impuretés. Ce qu'on appelle en arabe la najasa. L'urine, l'alcool, l'excrément.
Il y en a plein dans le bus.
Oui, mais là, où est-ce qu'elles étaient assises? Est-ce qu'il y en avait? Je pense pas. Elles n'allaient pas être assises avec les pieds qui... Madame, j'ai bien compris. Laissez-moi quand même répondre à votre question. Donc, la prière surérogatoire, si elles ont fait des prières surérogatoires, leur prière est valable. Mais vous me dites que c'était l'heure de l'Asr, donc il est probable que ça soit la prière de l'Asr qu'elles étaient en train de prier. Eh bien, moi, je leur dis, cette prière-là n'est pas valable. Elle est caduque. Elle est fausse. Il faut qu'ils la refassent. On ne peut pas prier assis. Les prières obligatoires. Quand le prophète sallam venait, la prière obligatoire, il arrêtait le chameau, il descendait du chameau ou la mule ou la monture sur laquelle il était, et il accomplissait ses prières avec les postures. Debout, incliné, prosterné, comme on le fait quand on est sur un tapis. Voilà. Donc, cette personne-là est invitée à attendre de rentrer chez elle pour prier. Maintenant, quand on est assis, ma sœur, moi, je vois pas d'inconvénient. Est-ce qu'une personne, si elle fait ça discrètement, à s'incliner légèrement pour le rukou, à incliner un petit peu plus pour le sujoud, pour pratiquer des prières surérogatoires, moi, je vois pas d'inconvénient. Je gêne qui? Je ne dérange personne. Il y a bien des prêtres, il y a même des chrétiens qui ont un chapelet, qui sont en prière assis sur leur chaise. À partir du moment où on dérange personne, il faut quand même pas abuser... on est quand même dans un pays de droit. À partir du moment où je ne constitue pas un trouble à l'ordre public, je suis assis tranquillement, paisiblement, j'incline ma tête devant moi, je gêne qui? Je dérange personne. Si j'ai envie de prier des prières surérogatoires, il n'y a aucun problème. Maintenant, je répète à ces personnes, si c'était une prière obligatoire, elle n'est pas valable. Seules les prières surérogatoires peuvent être accomplies assises. Les prières obligatoires peuvent être accomplies assises que si on ne peut pas sortir de moyens de transport, c'est-à-dire un train qui va faire plusieurs heures de trajet, ou un avion, ou un bus qui fait des longues distances. Mais là, en l'occurrence, cette dame-là, si vous me dites qu'elle est dans un bus de ville, la RATP, ça veut dire qu'elle va bientôt arriver à destination et qu'elle va rentrer chez elle et pouvoir prier. Elle va prier donc dans les postures prévues, comme le prévoit la prière qui se fait sur un tapis normalement. Est-ce que j'ai bien répondu à vos questions?
Voilà, Fatima, la réponse de l'imam. Merci pour votre question. Le docteur Shafika Kitter est avec nous. Bonjour docteur, bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour Philippe, bonjour monsieur l'imam.
Salam alaykoum Urti Shafika, docteur Shafika Mahbabik.
Voilà, qui est diabétologue, endocrinologue à l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis.
Absolument, à Saint-Denis.
Bon, vous êtes à Paris et je vous ai moins souvent que votre sœur qui est fil khabar Urti Nawal.
Ma belle-sœur.
Ah, votre belle-sœur Nawal, voilà, c'est ça, la belle-sœur Nawal.
Absolument.
Nawal, qui est, mashallah, elle m'a interviewé deux fois, là, ce mois-ci.
Bah, écoutez, vous êtes une célébrité.
Oui, elle est tellement connue, Mme Abdelali, qu'elle s'y est reprise à deux fois. Hein.
Oui, à deux fois.
Ouais, franchement. Bah,
j'ai vu les articles, ils étaient bien, c'était sympa.
Vous savez qu'on est là pour parler de diabète, Imam Abdelali.
Oui, allons-y. Non, mais parce que quand j'entends Shafika...
Je voulais souhaiter un bon ramadan à tout le monde, à tous les musulmans. Et puis je voulais intervenir déjà pour répondre à la dame qui a posé la question sur le diabète et elle est diabétique de type 2.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Elle a aussi une hypertension. Elle prend plusieurs médicaments.
Une hypertension artérielle, absolument. Mmh. Donc c'est vrai que je suis déjà venue plusieurs fois et j'ai déjà parlé des recommandations en fait. Sur le diabète et le ramadan, ces recommandations qui existent depuis des années déjà et qu'on essaie de faire connaître de plus en plus chaque année par les médecins, par les professionnels de santé et par les diabétiques eux-mêmes. Donc moi, ce qui m'a interpellée, c'est ce qu'a dit M. l'imam, de conseiller à la patiente d'aller voir un médecin musulman, ça m'a un petit peu...
Non, ou bien je lui ai dit qu'elle prend quelqu'un qui prend en compte les paramètres sacrés et spirituels du ramadan. Parce que absolument. Parfois des médecins, ils sont simplement dans la prévention, ils vont vous dire non, ne jeûnez pas par prévention, ils ne prennent pas du tout en compte la dimension spirituelle et l'importance que nous donnons, nous, à la pratique du jeûne du Ramadan. Et donc, voilà, mais donc parfois
certains médecins... Non, mais certains médecins, certainement, et parmi eux, il y a même des médecins musulmans, hein, parce qu'il y a des musulmans qui vont dire... soit vous faites pas, sans argumenter. Alors voilà. Il y a des recommandations. Il y a eu même nous, il y a eu des enquêtes faites sur avec des médecins et des patients qui ont montré qu'il y avait même parmi les médecins des médecins musulmans qui ne connaissaient pas les recommandations.
Et, énormément, Shafika, parce que moi, pour avoir fait plusieurs émissions avec vous sur le sujet, ces recommandations sont très méconnues et finalement les diabétiques, on leur dit bah, je n'ai pas.
Tout de suite, ouais. C'est systématique par précaution. Ils ne veulent pas assumer. S'il se passe un problème, ils ne veulent pas assumer.
Je peux vous dire que maintenant, les recommandations sont un peu plus connues qu'il y a quelques années. Les recommandations déjà étaient connues dans les pays anglo-saxons, mais elles n'étaient pas encore arrivées en Europe. Mais depuis 2 ans, elles sont arrivées. Les médecins s'y intéressent, les personnels s'y intéressent. Il y a plusieurs hôpitaux, plusieurs villes en France qui s'intéressent et qui organise des réunions avec les diabétiques musulmans, enfin des musulmans qui sont diabétiques.
Alors, Shafika, on aimerait les connaître. En gros, on va voir entre les types 1 et type 2, quelles sont les recommandations, s'il vous plaît.
En gros, ceux qui pourraient jeûner sans inquiétude, ce sont les diabétiques de type 2, c'est-à-dire qui ont des comprimés, mais pas n'importe quel comprimé. Par exemple, la metformine, oui, pourquoi pas, à condition, et dans tous les cas, à condition que le diabète soit bien équilibré. Parce qu'un diabétique qui perd du poids, qui a son hémoglobine glycée, c'est-à-dire c'est une prise de sang qui montre comment est l'équilibre du diabète, qui est très élevé, ou bien un patient qui a des complications du diabète, par exemple, il est en train d'avoir des séances de laser au niveau des yeux, ou bien il vient d'avoir un stent au niveau des coronaires, c'est-à-dire au niveau du cœur, ou bien il a une insuffisance rénale, c'est-à-dire une atteinte des reins, ces patients-là ne peuvent pas jeûner, même s'ils ont un diabète de type 2.
D'accord.
Il y a l'équilibre du diabète, il y a aussi les complications du diabète.
Puisque voilà. Le diabète, donc, c'est ce qui engendre effectivement ces maladies qui viennent se greffer au diabète et qui sont provoquées par le diabète lui-même.
Absolument, absolument. Donc,
problème de yeux, problème de reins, etc.
Absolument. Donc, il faut pas réduire les conseils juste au type de diabète, mais aussi les complications, les autres maladies associées. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y avait une hypertension artérielle. Si l'hypertension artérielle, la patiente doit prendre 3 comprimés par jour, le matin, le midi et le soir, elle ne peut pas sauter la prise du midi. Il faut peut-être qu'elle s'enchaîne auprès de son médecin, effectivement, un cardiologue ou son médecin. Si elle peut sauter la prise, si elle peut la mettre plutôt le soir ou 2 comprimés le matin, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, il lui est impossible de jeûner.
D'accord.
Voilà.
Mais donc, pour l'insulinodépendant, c'est-à-dire le diabète de type 1, qu'est-ce qu'il en est?
Alors, le diabète de type 1, il est déconseillé de jeûner. Mais moi, j'assiste et je vois pas mal de patients diabétiques de type 1 qui jeûnent, mais qui sont conscients des complications ou des risques qu'ils ont cours. C'est une réalité. Donc, quand ils sont en hypoglycémie, ils interrompent leur jeûne. Sachant qu'ils peuvent ne pas jeûner, il y en a certains qui courent ce risque, mais connaissant ce risque.
Mais alors, madame, au lieu de les déconseiller, pourquoi ne pas tout simplement leur interdire d'être plus catégorique, d'être plus dur avec eux pour leur intérêt, dans leur intérêt?
On a déjà eu cette discussion, vous et moi. C'est-à-dire que moi, en tant que médecin, je vais leur dire que c'est, je peux pas leur dire que c'est interdit. Je vais leur dire que c'est très dangereux pour leur santé.
Oui, mais qu'on appelle interdit ou très dangereux, c'est pareil, c'est la même chose, c'est la même.
Non, je ne peux pas les forcer.
Bien sûr, vous pouvez pas les forcer. De toute façon, même quand ils vont sortir de votre cabinet, ils feront ce qu'ils veulent.
Mais vous pouvez très bien
leur interdire, c'est-à-dire leur dire, écoutez, d'un point de vue religieux, vous n'avez pas le droit de vous mettre en situation périlleuse. Vous mettez votre vie en péril. Et à partir de là, votre santé en péril, vous commettez un péché. C'est ça le. Parce que la sahra, c'est un dépôt d'Allah Azza wa Jal. On doit la préserver au mieux.
Vous
pouvez tenir ce discours, M. Abdelali. Moi, je suis médecin. Moi, je ne peux que leur parler des risques. Mais je ne peux pas leur dire que sur le plan religieux, moi, je n'interviens pas en tant que religieux dans ce sens-là, dans ce cas-là, voyez.
Mais vous avez le droit de transmettre la parole de l'imam. Moi aussi, je transmets la parole du médecin. Ce n'est pas un problème. Hein. On peut jouer le rôle d'intermédiaire, l'un et l'autre.
Attendez, c'est difficile. Vous parlez à un médecin. Mais moi, je voudrais que ce message que je transmets en tant que médecin, que tous les médecins l'écoutent, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Vous voyez ce que je veux dire?
D'accord.
Voilà. Donc, un médecin, qu'il soit musulman ou pas, moi, je pense qu'il doit parler en tant que médecin déjà. Voilà. Donc, voilà. En gros, en limitant, voilà, il y a quatre parties, en fait, ou quatre catégories. Ceux qui peuvent jeûner, comme je vous disais, c'est surtout ceux qui sont metformine, sous glucor, et bah, les diabétiques vont se reconnaître. Mais ceux qui sont, par exemple, sous Daonil, Diamicron, peuvent jeûner à condition de ne pas faire d'hypoglycémie. S'ils font des hypoglycémies, ils arrêtent le jeûne. Après, il y a dans l'autre catégorie, la plus à risque. Je vous en ai déjà parlé, c'est ceux qui ont des complications, par exemple, ou ceux qui ont de l'insuline.
Shafika, coupez la radio qui est à côté de vous, peut-être. Okay, comme ça, on vous entend.
On entend. Hein,
voilà,
j'ai pas fait attention. Ouais, voilà. Excusez-moi.
Merci.
Donc, ceux qui sont, qui risquent la dialyse, voilà, qui ont un problème cardiaque, rénal, ceux-là, c'est évident, ils peuvent pas jeûner, même s'il y en a quelques-uns qui voudraient s'y risquer. Après, il y a ceux qui sont dans les deux catégories intermédiaires, par exemple ceux qui font des hypoglycémies et qui habitent seuls.
Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont personne pour les assister, les secourir en cas de besoin. Puisque un hypoglycémie, oui. Quand il fait une crise, il faut tout de suite lui donner du sucre. Et comme lui n'est pas en état de le faire, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de lui pour le faire, c'est bien ça?
Voilà. Alors, il y a des diabétiques qui perçoivent encore ils ont la perception des hypoglycémies, donc ouais. Ils peuvent se resucrer. Mais d'autres qui ne l'ont plus, cette perception. Donc, et petit à petit, ils font l'hypoglycémie qui s'aggrave et ils tombent dans le coma. C'est ce qu'on appelle le coma hypoglycémique. Ceux-là, ils sont
et ils en meurent. Ils en meurent, bien sûr, d'ailleurs. S'il n'y a personne qui vient en leur secours, ils meurent.
Ça arrive. Pas tout le temps, mais ça arrive. Surtout s'il n'y a pas de secours qui arrive, bien entendu.
Shafika, vous voulez bien rester avec nous? Je vous retiens un instant, si vous voulez bien, parce que c'est un sujet trop important. L'épidémie de diabète est vraiment trop, trop présente dans la communauté pour pas qu'on aille au bout des recommandations. Est-ce que je vous garde un instant?
On essaye parce que je suis dans un endroit. Je vous ai juste pris rapidement, je ne suis pas dans... Bon. Mais bon, je reste avec vous.
Voilà, restez avec nous parce qu'on a une courte page de publicité. À tout de suite.
Allô l'imam, reviens dans un instant.